Alors, mesdames, messieurs, je voulais d'abord remercier le comité d'organisation pour me donner l'opportunité de présenter le système de gestion qui a été mis en place au CHU de Bordeaux sur son parc de mesure du glucose capillaire. Alors d'abord, il faut que je prenne connaissance de comment marche cette machine. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, un petit rappel d'abord en préambule. Bon, comme vous le savez, le terme requis, c'est vraiment glycémie capillaire ou lecteur de glycémie. Et bien souvent, on entend encore, les infirmières disent, je vais faire un dextro. Bon, c'est un peu comme quand elles parlent de leur frigidaire et de leur réfrigérateur. Ce sont des termes qui sont passés dans le langage courant, des termes commerciaux, certains, puisque le dextro stick, c'était tout simplement, dans les années 65 déjà, c'était des bandelettes qui viraient au bleu, qui se lisaient à l'œil, mais voyez que le terme a une longue vie. Alors d'autres termes comme ça sont dérivés en effet d'utilisation commerciale ou de traduction de termes anglo-saxons, mais on va bien retenir que la terminologie c'est bien des lecteurs de glycémie. Pour la petite histoire, le premier lecteur de glycémie capillaire pesait la bagatelle de 1 kg, on est en 1974 et les choses ont donc quelque peu évolué. Alors toujours pour poursuivre ce préambule, parfois on entend dire aussi, bon, les lecteurs de glycémie capillaire, oui, mais enfin ça n'est pas très sûr, ou du moins il y a des variabilités analytiques importantes, où est-ce qu'on se situe par rapport au résultat d'une glycémie veineuse. Alors il ne faut quand même pas oublier que là c'est une autre norme, qu'on n'a pas encore citée peut-être aujourd'hui, qui régit tous les systèmes d'essais de diagnostic in vitro, et tous les fournisseurs, fabricants sont quand même tenus de respecter de multiples procédures de vérification. Alors cette norme a été revue en 2013 et on voit qu'elle s'est même rétrécie par rapport à la version 2003 initiale sur le biais maximum qui est autorisé, avec des différences en fonction de la gamme de mesures dans laquelle on est. Plus on est dans des valeurs très très grandes, qu'on ait 18 ou 20 millimolaires, bon voilà, c'est éventuellement la philosophie qu'il faut en retenir. Et ce durcissement dans quand même le biais acceptable est appuyé également par une norme de la FDA qui est parue en 2014 et qui résumait ici et qui rétrécit quand même ce biais. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec un lecteur de glucose capillaire. Alors tout ça, ça s'appuie sur ce qu'on appelle la grille d'erreur de Clark, qui a été publiée, vous voyez, il y a pas mal d'années, qui est présentée ici, où en fait on a des valeurs acceptables qui doivent se situer toujours dans A, c'est le résultat de la glycémie capillaire par rapport à la glycémie veineuse. Donc on est vraiment dans une comparaison et la norme de 2013 y introduit la notion de la pertinence ou de la signification clinique. Alors de toute façon, depuis 1997 déjà, l'AFSAPS avait bien parlé des biais acceptables, tolérables dans une gamme de mesures. Et on peut regarder maintenant ce qu'on trouve. Et si on regarde ce papier qui a été fait sur une cohorte d'environ 200 patients en réanimation, qui a été suivi pendant 6 mois, eh bien, les auteurs ont remarqué 17% de discordance entre le résultat capillaire et le résultat veineux, avec un pourcentage d'erreur supérieur à 20%. Bon, ça semble important, mais alors au-delà des chiffres, ce qu'il faut regarder, c'est les causes qui sont évoquées. A priori, ça ne semblerait pas dépendant de l'opérateur. Une grande série de causes, ça n'étonnera personne dans les laboratoires, possiblement des causes et même avérées pré-analytiques, alors ne serait-ce que pour le tube qui part au labo, il peut y avoir tout un tas d'incidents pré-analytiques. Ensuite, comme on est dans ce prélèvement qui est transcutané au bout du doigt, eh bien, ça peut être l'hypoperfusion périphérique, ça peut être un doigt qui est mal nettoyé, un doigt où il y a du désinfectant, il peut y avoir pas mal de choses. Ensuite, ce qui est intéressant pour la suite de l'exposé, c'est qu'il peut y avoir des biais liés à l'appareil et au consommable. Alors, soit on n'est pas dans le bon couple appareil-bandelette, soit on a des bandelettes abîmées, souillées, périmées, enfin, tout un tas d'événements peuvent arriver. Alors, d'ailleurs, l'HAS, quand il fait une étude rétrospective sur les lecteurs de glycémie utilisés en autosurveillance diabétique, en ambulatoire, chez soi, là on n'est pas en usage hospitalier, note bien que finalement, on ne suit pas tellement les contrôles de qualité, les petites fioles qu'on connaît ne sont pas suivies. D'abord, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, est-ce que le patient va savoir s'en servir, la durée de péremption, enfin, il y a plein d'éléments qui font que ça n'est pas utilisé. Et ils ont fait une étude, excusez-moi, quelques années en arrière, c'est pas ça non plus, c'est vrai que c'est trompeur, quelques années en arrière, où il y avait à peu près 550 déclarations d'incidents, et ils avaient démontré que dans 90% des cas, les contrôles de qualité n'étaient jamais nommés. Et pour les incidents majeurs, alors malaise, voire coma et hospitalisation, cet incident aurait pu être évité si, dans 50% des cas, il y avait eu utilisation des contrôles de qualité. Alors, ça aurait pu mettre le doigt sur certains points, des problèmes de conservation des bandelettes, voire l'appareil qui est abîmé, ou aussi des erreurs d'utilisation de l'unité. Alors, à ce titre, une petite parenthèse, c'est que justement, l'AFSA, du moins pour l'utilisation professionnelle, impose ou demande fortement aux fournisseurs de donner des lecteurs en milieu hospitalier qui soient fixés sur une unité, qu'on ne puisse pas toucher au paramétrage. Et dans la suite de l'exposé, je vais vous présenter sous notre solution, nous, des lecteurs qui sont entièrement en milligrammes par décilitre. Alors, on voit qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Et bon, en 2018, où est-ce qu'on en est pour ces glucoses capillaires? Que peut-on faire en secteur hospitalier? Et que nous ont dit les textes successivement par rapport à la biologie délocalisée dont on parle depuis ce matin? Alors, bon, les premiers textes, vous les connaissez, on ne revient pas dessus. Il y a eu, à côté de la 1589, la 22870 qui est apparue. Tout ça dépend du laboratoire, il faut gérer, entourer tout ça le mieux possible. Mais au départ, il n'y avait nul texte qui définissait la liste de ce qui rentrait dans la biologie délocalisée et de ce qui n'y rentrait pas. Alors, on pouvait se dire par défaut, tout ce qui était fait en dehors du laboratoire, géographiquement, c'est délocalisé. Mais on pouvait aussi se dire non, enfin, c'était libre interprétation. Alors, en juin 2013, est paru un arrêté. Ça a été le premier qui a défini ce qu'on appelait les signaux biologiques, qui ne répondaient pas à la norme 22870. Et on voit que le test capillaire d'évaluation de la glycémie est dans ce listing. Il dépend d'un certain nombre de professionnels, en tout cas pas les aides-soignants. Et... que peut-on en dire de plus? Eh bien voilà, on avait un texte, et à partir de ce texte, chacun était en mesure de se faire une idée. Alors, soit on prenait le choix de se dire, bon, déjà, on va avoir l'accréditation de tous les laboratoires, il va y avoir aussi l'accréditation de la biologie délocalisée, définie comme biologie délocalisée. Si maintenant, il faut aussi s'occuper des signaux biologiques, c'est difficile, voire infaisable, donc on pourrait avoir tendance à dire jusqu'à l'extrême, bon, mais bon, débarras, on s'en occupe plus. D'un autre côté, on pouvait aussi se dire, oui, mais enfin quand même, et on va le voir, les glucoses capillaires, c'est beaucoup de dosages qui servent à beaucoup de choses en milieu hospitalier. Est-ce qu'il faut vraiment fermer les yeux ou est-ce qu'il faut continuer ou essayer d'avoir une démarche la plus sécuritaire possible en termes de qualité? Alors, d'autant plus que cet arrêté, si on en regarde dans le détail son annexe 2, on voit quand même des choses. D'une part, une bonne fois pour toutes, il faut quand même que les opérateurs quelque part soient formés, qu'il y ait des fiches de procédure, qu'il y ait quelque chose quand même d'assez bien encadré. Et d'autre part, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que dans l'alinéa 2 de cette annexe, on s'aperçoit que pour chaque glycémie et chaque patient, il faudrait donner les résultats avec l'unité, bon ça c'est la moindre des choses, mais aussi le numéro de série du dispositif, le numéro de lot de la bandelette, sa date de péremption, quel est l'opérateur qui a fait, est-ce qu'il y a eu des contrôles de qualité qui ont été passés, par qui, par des gens habilités, pas habilités, est-ce qu'il y a des contrôles externes qui sont effectués ou non, enfin bref, on comprend bien que, vu le nombre de glucoses capillaires qui sont faits, si on devait vraiment, pour chaque patient et chacune de ces mesures, faire cela, c'est quasiment ingérable. Alors, en 2015, le Conseil d'État a annulé cet arrêté. Alors, pour ma part, j'ignore pourquoi, peut-être que M. Vaudon nous dira pourquoi, mais en tout cas, ça a été annulé. Donc, on est revenu dans un vide juridique, chacun se disant, je continue à faire ce que je veux, sauf que le premier texte, on l'avait lu quand même. Une fois qu'on a lu les choses, c'est difficile de complètement les oublier. Et puis, rebondissement, et on en est là, dans l'historique pour le moment, en août 2016, nouvel arrêté qui est paru, et à vrai dire, il a repris exactement les termes de l'arrêté de 2013. Ce qui fait que c'est quand même une question qui se pose au niveau de cette gestion de la qualité, et si on regarde à l'échelle nationale, si l'AFSA imposait déjà dès 1997 un contrôle des lecteurs de glycémie, le site amélie.fr pour toute l'assurance maladie précise que au moins pour l'autosurveillance à domicile, au moins une fois par an, il faut quand même contrôler son lecteur contre une prise de sang. Donc dans toute cette petite goutte de sang. On voit bien que d'emblée, elle est petite, mais il y a des tas de questions qui se posent pour nous biologistes et pour les hôpitaux en général. Et comment pourrait-on y répondre sans que toutefois ce ne soit une montagne à escalader, ce qui n'est pas le but non plus. Alors, comment le CHU de Bordeaux s'est positionné dans cette gestion? Alors, l'aventure des glucomètres connectés au CHU a démarré en 2010. Bon, je suis l'initiative de mon prédécesseur sur le dossier, qui était le professeur de Rache, qui l'avait initié à cette époque-là. Alors, le CHU de Bordeaux, c'est environ 2700 lits qui sont répartis sur trois sites. Alors, un site d'à peu près 400 lits, Saint-André, deux autres sites de taille à peu près équivalente. Et en fait, vous allez le voir, on a des lecteurs de glycémie, évidemment, absolument partout. Alors voilà notre parc. Si l'on fait le cumul des lecteurs qui sont connectés et de ceux qui ne sont pas connectés, on a un parc de 690 appareils. Alors, on est équipé chez le fournisseur Roche. On a, pour les lecteurs connectés, ils sont au nombre de 358, ils vous sont ici répartis entre les trois sites, et on fonctionne sur la QCheck Inform 2. Là, on sait qu'on a 1800 infirmiers où il y a d'e-bod qui travaillent dessus, parce que, comme c'est complètement connecté, on suit les habilitations et on sait qui fait quoi. Pour les non connectés, il y en a 333. Sur les trois sites, ça inclut aussi ce qui fait partie de notre GHT, l'hôpital psychiatrique Charles Perrin, et puis la prison Gradignan. Et évidemment, le nombre d'opérateurs est inconnu, puisque ce n'est pas connecté, mais on peut supposer qu'il y en a quand même beaucoup aussi. Normalement, ils ne sont jamais dans les mêmes services d'ailleurs. On travaille depuis 2016 avec ce qu'on appelle la bandelette unique à usage professionnel, qui permet d'utiliser indifféremment cette bandelette sur cet appareil ou sur celui-là. Ça a fait beaucoup d'ordre au niveau économique dans le CHU, parce qu'on avait deux types de bandelettes, beaucoup d'erreurs de commande, des boîtes au fond des placards, des tiroirs, enfin beaucoup de choses. Donc tout a été mis extrêmement à plat. On a les mêmes contrôles de qualité avec deux niveaux. On utilise le middleware qui est IT1000 Cobas Academy. On va voir comment on utilise cette connectique pour celui qui est connecté, et on en utilise certaines fonctionnalités pour les appareils qui sont non connectés. Alors justement, commençons par les non connectés. Est-ce que c'est facile à gérer des appareils non connectés? Bon, de façon générale, pour ceux qui font de la biologie délocalisée, on le sait déjà, la réponse est plutôt non, c'est difficile. Regardons ce qui s'est fait dans la littérature. On a un article déjà un petit peu ancien qui s'était fait sur un hôpital parisien, sur un parc qui était déjà important, hein, 120 lecteurs dans 39 services. Et le biologiste expliquait qu'il se déplaçait lui-même, marquait les numéros de lot, les dates de péremption, les numéros de série des appareils, etc. Alors c'est très remarquable. Mais c'est un peu asphyxiant comme travail quand même, a priori. Alors, depuis 2016, sur le CHU de Bordeaux, on a quand même décidé de mettre de l'ordre dans les dispositifs non connectés, parce que le but, c'est quand même pas de mettre de la connexion partout. On va pas remplacer 333 appareils non connectés par 333 connectés. Parfois, ces appareils, ils servent peu, ou ils ne sont pas du tout dédiés à des situations où il faut se lancer dans un déploiement, des habilitations, etc. Mais ça n'empêche que quand même, il est bon d'y mettre de l'ordre, et donc on a fait toute une cartographie de ces appareils qui a nécessité une visite dans tous les services, et cette cartographie a été centralisée sur une des fonctionnalités de l'IT1000, et on a donné la charge de cette mise à jour de cette cartographie aux services économiques des sites les plus concernés. Il faut les remercier parce qu'ils font un travail extrêmement rigoureux depuis cette époque-là. Par ailleurs, on a voulu monter en puissance sur les contrôles de qualité sur ces appareils non connectés. Alors, il y avait déjà eu des travaux préalables avec des fiches de suivi. Enfin, il y avait des gens en biologie qui étaient déjà intervenus là-dessus. Mais ces fiches, elles sont où? Sur quel bureau? Dans quel tiroir? Qui va les voir? Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, on a défini des référents de soins dans les services de soins concernés qui ont appris à se servir d'une fonctionnalité particulière du middleware pour y saisir une fois par mois les contrôles de qualité qu'on leur a suggéré hebdomadaire sur ces appareils non connectés. Alors, vous avez vu, on a 330 appareils. Bon, au jour d'aujourd'hui, on en a 90 qui sont extrêmement bien suivis comme ça. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est déjà mieux qu'il y a deux ans où il y en avait zéro qui était centralisé informatiquement. Et puis, c'est un peu ma faute parce que je me suis occupée d'autres dossiers, j'ai laissé celui-là un peu de côté. Et au moment du déploiement initial, il y a des services qu'on n'avait pas sollicités, il faut qu'on monte en puissance. Alors, vous voyez que ça peut être bien, parce que chaque mois, on édite quand même les rapports, hein, qu'on envoie au cadre de chaque service, avec des commentaires, donc ils voient qu'on les suit. Et vous voyez que ce service, par exemple, a bien travaillé, il a passé ses deux niveaux quasiment toutes les semaines du mois. Donc, c'est plutôt très bien. Celui-là, bah, c'est déjà bien, il a passé au moins une fois dans le mois, mais enfin, c'est pas l'idéal, on va lui dire de poursuivre un peu. Alors, le non connecté, vous voyez, c'est faisable, mais attention au relationnel avec les services de soins. Pour les adeptes de Tintin, on sait bien quelle est l'image suivante, il peut y avoir des effets boomerang, et puis, il faut pas que la biologie s'y épuise, ça va de soi. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire qu'évidemment, dès lors que c'est connecté, c'est beaucoup plus serein. Mais, et je vous donne ça à titre d'adage ou de dicton pour la biologie délocalisée, pour tous ceux qui en font, c'est-à-dire nombreux dans la salle, vous savez qu'il y a un principe fondamental qui est qu'il faut toujours quand même maintenir le cap, quoi qu'il arrive. Alors, dans notre gestion du parc connecté, nous sommes comment ? Alors, ils sont tous en Wi-Fi. Les seuls filaires qu'on a sont au laboratoire pour des réglages, enfin n'importe. Ils sont tous en Wi-Fi, donc on a un scan de la venue du patient. Ça transite par le middleware qui est l'ITMIL, et puis ça passe par le CIL du laboratoire. Alors en l'occurrence, on est toujours sous TD Synergie, mais le CHU de Bordeaux est en train de faire une grande migration vers GLIMS, donc c'est déjà qualifié sous GLIMS, mais ça fera partie d'une deuxième phase, et ça arrive sur le dossier patient. Alors dans le dossier patient, ça arrive directement, et ça arrive avec quoi ? Ça arrive avec le numéro de série de l'appareil, le nom de l'opérateur de soins, puisqu'ils sont connus, vous allez voir qu'on, dans la connexion, on gère tout ça, et puis avec le chiffre. Voilà. Alors, la grande question, c'est aussi, oui, ça a l'air bien ou pas bien, enfin, chacun juge, mais qui s'occupe de tout ça ? Alors, qui gère ? Bon, au démarrage en 2013, alors tout ce qui était connectique était quand même centralisé sur un des seuls sites du CHU, le groupe Sud. Et puis, il y avait une répartition un peu par site, des échanges possibles, des opérateurs. Enfin bon, cette hétérogénéité n'est pas très facile à gérer. Donc, à partir de 2013, on a vraiment tout recentré sur un seul site qui a vraiment géré les opérateurs, les dépannages, la mise à jour du middleware, le suivi de la qualité, etc. Mais on avait des techniciens qui tournaient sur cette paillasse, c'était les techniciens du labo qui à intervalles réguliers arrivaient là-dessus, ils étaient plus ou moins au point, ça pouvait faire 3 mois qu'ils n'étaient pas venus, on n'était pas non plus dans une prise en main idéale, et on a profité d'une grosse restructuration des laboratoires de Bordeaux pour créer une cellule délocalisée qui est vraiment effective à partir de ce printemps, et où on a pour tout le CHU 3 techniciens complètement dédiés avec un cadre de santé partagé et qui nous permet de monter un peu en puissance en collaborant bien sûr avec tous nos systèmes d'interface. Alors voilà l'activité qu'on fait, parce que c'est intéressant quand même de regarder les activités qu'on fait avec les glucoses, enfin sur les lecteurs de glucose capillaire. Alors je vous l'ai présenté en 3 colonnes, ici vous avez notre activité de glycémie veineuse, puisqu'on dit toujours, c'est ça la référence, ben, combien on en fait au CHU de Bordeaux, tout site confondu sur une extraction de notre assistant de gestion du pôle. À partir de 2016, sur Tuplu-Auray, on voit qu'on est à peu près toujours autour de 140-150 glycémies veineuses demandées par jour. Si on regarde maintenant ce qu'on fait sur les lecteurs connectés, là c'est facile d'avoir l'activité puisque justement la connexion nous permet de la suivre. Alors on en a 358, entre parenthèses le nombre de sécu qui sont passés, donc là c'est les malades. Regardez le rapport, on est déjà à 8, un facteur 8 à 10, un peu plus, même de plus que les veineux. Bon, pour les non connectés, compliqué, puisqu'il n'y a pas de connexion, on n'a pas une extraction d'activité très facile. Donc là, j'ai fait un savant calcul avec les commandes, la distribution au niveau des plateformes de distribution hospitalière. Enfin bon, au total, on a quand même en capillaire à peu près 2250 dosages qui sont réalisés par jour, soit 15 fois plus que le veineux. Je vous rappelle qu'on a 2700 lits, 1620 consultations par jour. Alors, la question qui arrive immédiatement, c'est, alors ce qui est amusant, c'est qu'à peu près le même dessin photo a été utilisé ce matin, comme quoi ça nous inspire, cette biologie, les différences avec le laboratoire. Qu'est-ce qu'on peut expliquer de ce grand différentiel entre les prescriptions veineuses et l'utilisation capillaire ? On pourrait dire, oui, bah, ça, c'est les services de diabéto qui y vont à fond. Bah, justement, pas, parce qu'en tout cas, en connexion, ils n'en veulent pas, parce qu'ils font de l'éducation thérapeutique et ils se servent des lecteurs de leurs patients, sur lesquels ils leur apprennent à bien s'en servir. Donc, eux, ils ne s'en servent pas, mais enfin, ils en font quand même de la non-connectée. Ensuite, des diabétiques, surtout de type 2, bah, bien sûr, il y en a un peu dans tous les lits du CHU. On est quand même dans une situation épidémique à l'heure actuelle dans nos pays. Et puis, il ne faut pas oublier que le glucose, ça n'est pas que que du diabète. Le glucose, c'est quand même un des grands facteurs d'homéostasie glucidique. L'homéostasie glucidique à maintenir, c'est quand même un des grands facteurs vitaux. Et dans les réanimations, on sait bien que toute hyperglycémie, toute situation de stress organique s'accompagne d'une hyperglycémie, que ça augmente la prévalence de la morbimortalité et qu'il est recommandé, dès qu'on dépasse un certain seuil, de mettre de l'insuline en intraveineux pour diminuer durée de séjour, complications, etc. Et justement, si on regarde de plus près ce que fait le CHU de Bordeaux, ça c'est vraiment les cliniciens qui ont décidé de leur côté. Ils ont créé ce qu'ils appellent une pancarte sur leur logiciel dossier patient, hein, c'est des X-Care ou Metavision. Et cette pancarte, c'est une espèce d'extraction de tous les renseignements qu'ils veulent avoir d'un coup d'un seul avant d'aller farfouiller dans tous les sous-chapitres des résultats. Et dedans, à côté de l'hémodynamique, des facteurs respiratoires, neurologiques, etc., ils ont mis le glucose capillaire. Et ils ont mis dessous l'adaptation thérapeutique de l'insuline qui est calculée à partir de ça. Donc c'est vraiment d'une utilité quotidienne. Et moi, biologiste, quand on me dit ben, on se sert de ça pour adapter de l'insuline, je préfère quand même qu'il y ait un système de qualité derrière qui vérifie. Et le CHU de Bordeaux n'est pas du tout isolé dans cette utilisation, loin s'en faut. Alors, les apports de la connectique là-dedans, ben, en fait, je vais vous décrypter des exemples. Hein. Ça démarre dès le début. Finalement, les lecteurs sont livrés. Ils arrivent au niveau du laboratoire qui les centralise. Et là, on commence à les faire vivre dans le système. Alors, on les fait vivre comment ? Parce qu'on va faire sur eux... On ne va pas appeler ça une qualification au titre de la 22870 ou même de la biologie de labo, mais enfin, on va quand même faire une vérification de qualité. Donc, on crée pour eux la possibilité d'avoir des rapports de résultats. Et on commence par faire deux contrôles, bas et haut, qui vont être passés 10 fois chacun, dont on attend un CV quand même assez restreint. On est très restrictif par rapport à ce qu'autorise la norme 2013 ou même la FDA. Par ailleurs, et ça, ça a été une collaboration entre le CHU de Bordeaux et la société Roche, on a demandé de pouvoir faire une linéarité sur 6 points avec 2 passages. Et dès lors que tout ça sort avec un CV satisfaisant, c'est ce qu'on appelle la fiche de vie de l'appareil, il est validé pour être déployé sur le CHU. Ça, c'est l'appareil. Par ailleurs, il y a des consommables. Alors, les consommables, ils sont tous livrés sur notre plateforme de distribution hospitalière, mais avant d'être déployés sur la totalité du CHU, on a mis en place un circuit qui fait arriver chaque nouveau numéro de lot au niveau du laboratoire. Les numéros de lot sont validés, toujours sur l'essai de un niveau haut, un niveau bas, 10 passages, un CV acceptable, etc. Et seulement si c'est bon, là, on donne le feu vert à la plateforme des distributions pour l'expédier sur la totalité du CHU. Alors ça a plusieurs avantages, c'est que comme on le saisit dans le middleware, du coup, on met aussi la date de péremption. Donc aucun service de soins ne pourra ressortir un an et demi après une boîte qui traîne au fond d'un tiroir, ce sera refusé par l'appareil. Et si jamais il y avait une alerte, eh bien, on annulerait l'utilisation de tous ces lots. On fait la même chose, je passe rapidement sur les contrôles de qualité, c'est la même chose, ce consommable est également validé pour sa distribution et il est créé sur l'IT1000 qui le reconnaît au fur et à mesure. Et maintenant qu'on a les appareils et les consommables, eh bien, il faut positionner les appareils là où il faut, c'est-à-dire que chaque service va avoir un instrument particulier. Le but, c'est que le service qui est au sous-sol ne va pas pouvoir envoyer son appareil au sixième qui va disparaître un jour ou l'autre dans les méandres. Chacun est marié à un service. Alors, on peut mutualiser des services, hein, bien sûr, ou des appareils. Et chacun de ces appareils, du coup, reçoit la totalité de la liste patient sur lui-même. Donc, c'est dans une des fonctionnalités, une des pages d'IT1000, c'est créé ainsi. Et maintenant, tout est en place, il ne reste plus que les opérateurs de soins. Ce n'est pas une petite histoire, vous avez vu, il y en a 1800. Donc, c'est un geste infirmier. Et la première chose, c'est d'avoir un relationnel vaste sur le CHU de façon à être averti de l'arrivée de tous les nouveaux opérateurs de soins. C'est un peu leur naissance. Donc, on a même mis en place un mail dédié qu'on utilise pour toute la biologie délocalisée. Là, on va créer en quelque sorte la carte d'identité du nouvel opérateur de soins dans le middleware et ça va permettre de gérer les utilisateurs. Bien sûr, il faut suivre leur mouvement dans le CHU, ce qui n'est pas une mince affaire, tout le monde le sait bien. Alors nous fonctionnons avec une carte, un badge, code barré, qui permet de se scanner sur l'appareil et c'est d'ailleurs le même badge qui est utilisé dans d'autres secteurs de la biologie délocalisée du CHU. Donc c'est fabriqué sur un appareil dédié à cela et l'opérateur a le droit dès lors que sa formation est faite de commencer à s'en servir mais il va falloir qu'il s'habilite aussi. Pour répondre, excusez-moi, il va falloir qu'ils s'habilitent. Alors voilà la feuille de formation potentielle qui est archivée dans des classeurs, sachant qu'on est monté en puissance assez lentement sur ce secteur-là. Il y a d'autres secteurs de biologie délocalisés où on a été d'emblée dessus. Les fiches de formation ont été introduites après pour les lecteurs de glucomètre. De glycémie. Alors l'habilitation des opérateurs, ça se fait sur le COBAS Academy de l'ITEMIL. Vous avez une partie cours et une partie e-learning. Bon, c'est un quiz classique. S'ils sont positifs, eh bien, ils peuvent s'en servir. S'ils échouent, on leur laisse 5 possibilités quand même. Le but n'est pas du tout de coincer les gens. Hein. C'est d'être toujours dans ces bonnes pratiques professionnelles. Eh bien, ils retourneront vers le laboratoire pour comprendre ce qui les a bloqués. Alors, bien sûr que c'est vécu comme une contrainte mais ils ont de plus en plus l'habitude d'avoir ce type de fonctionnement et c'est vraiment rentré complètement dans les mœurs. Alors, je vous montre en effet qu'ils peuvent accéder sur notre portail intranet, ils accèdent ici à l'habilitation et ils vont être avertis un mois avant la fin de leur date, enfin un mois avant la date anniversaire de la fin de l'habilitation, en se scannant sur le lecteur, ils seront avertis qu'il va falloir qu'ils le refassent. Alors, la connectique nous sert aussi à gérer les contrôles de qualité. Pour la plupart, on leur a imposé, c'est en automatique sur les appareils, ils doivent passer les deux niveaux, au moins un niveau, tous les jours. Ils ne sont pas complètement bloqués, il y a des possibilités d'urgence quand même, hein, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'effondre, il faut pouvoir lui faire sa glycémie. Mais en tout cas, dès qu'ils épuisent toutes ces possibilités d'urgence, ils sont bloqués et ils devront passer obligatoirement les contrôles de qualité. Ça aussi, ça a pu être vécu comme une contrainte, surtout en 2010. Bon, maintenant, moins, on est 8 ans après, mais ça leur permet quand même d'entendre le discours qui est « oui, un appareil, ça peut toujours donner un résultat, mais le résultat n'est pas forcément juste. Si vous avez fait tomber vos bandelettes, vous les remettez en vrac en les touchant avec les doigts sur une paillasse avec du désinfectant dans la boîte, est-ce que vous êtes sûr que ça va vous donner un résultat juste ?» Donc, c'est globalement plutôt bien entendu maintenant. Et ça nous permet justement de gérer, nous arrivons à la fin, ces bonnes pratiques avec la connectique, puisque tous les mois, nous faisons à partir du middleware des éditions, d'abord de l'activité, et ça c'est envoyé à la direction des ressources matérielles pour confronter avec les commandes et les distributions par la plateforme de distribution, donc c'est plutôt pas mal au plan économique pour le CHU. Et par ailleurs, nous faisons des éditions de rétroaction sur le mois dernier, qui sont envoyées à chacun des cadres des services concernés. Alors, c'est envoyé avec une cohorte de félicitations, ou alors on fait quelques petites remarques. Enfin, c'est moi qui m'en charge, je fais quelques petites remarques quand besoin est. Je vous donne ici, pour terminer, 3 exemples caractéristiques. En haut à gauche, vous avez ici sur un appareil, vous avez eu 725 dosages qui ont été réalisés. Vous voyez qu'ils ont remarquablement bien passé tous les jours leur contrôle de qualité, qui sont ressortis avec un biais des plus acceptables. Donc là, ils ont un commentaire très bien, poursuivez, bravo en gros. Si jamais ils avaient eu beaucoup de pics, là, des choses un peu bizarres en cours de route ou autre, ça peut arriver. J'en profite pour leur faire un petit rappel de style. N'oubliez pas de changer vos flacons tous les 3 mois, il y a une date de péremption. Une fois qu'ils sont ouverts, n'oubliez pas de bien refermer les bouchons parce que ça peut se concentrer, vous avez des choses un peu bizarres. Bon, deuxième cas de figure, beaucoup moins bien, ça c'est sur un autre site, un autre service, 251 patients. Par contre, une grande partie, vous voyez, n'ont pas été identifiés. Ceux-là, on ne les retrouvera jamais dans le dossier patient. Ce n'est pas très bon non plus pour comptabiliser l'activité peut-être si l'extraction se fait directement sur le dossier patient. Alors, ça permet de mettre le doigt sur des choses, d'abord potentiellement des erreurs. On a pu marier un appareil avec le mauvais service, ou alors l'appareil est parti dans un autre service, on ne le savait pas trop, enfin voilà, il peut se passer des trucs, ça permet de suivre. Deuxième cas de figure possible, il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'idées en biologie délocalisée, on le sait tous. Et il peut y avoir un infirmier malin qui s'aperçoit qu'en scannant l'étiquette de la boîte de gants, il peut passer la page. Ah, oui, mais bon, le résultat ne remontera jamais là où il faut. Et comme on sait quel est l'opérateur qui a jamais identifié, on liste et puis on va voir la cadre et on lui dit, elle explique à l'agent que c'est pas comme ça qu'on fait. Ou alors on est tombé sur des étiquettes primaires de mauvaise qualité avec les scans impossibles. Dernier cas de figure, ça permet de suivre un petit peu la pertinence médico-économique de la chose. Au moment des déploiements, évidemment, il peut y avoir un engouement, on peut se dire on va en mettre partout, plein, ça va être magnifique, formidable. C'est pas le but, ça peut coûter cher. Et c'est pas intéressant de suivre des choses qui ne servent à rien non plus. Et là, typiquement, dans ce service qui a évolué au cours des mois pour différentes restructurations internes, un hôpital, ça bouge tout le temps, eh bien, on s'aperçoit que tout d'un coup, ils ont un appareil qui suivent très très bien avec les contrôles de qualité, mais finalement, ils nous gaspillent quasiment 40 bandelettes pour faire zéro patient. Donc, il est clair, on va pas le laisser. Ça permet de vérifier que les choses sont bien à l'endroit où on les attend. Voilà, donc cette connectique nous a permis de souligner que pour ce parc qui n'est pas de la biologie délocalisée au sens strict, d'ailleurs dans notre cellule on l'appelle apparenté, eh bien quand même c'est une aide à la gestion qui n'est pas négligeable entre sur les appareils, les consommables, la qualité, les résultats, les opérateurs et même les bonnes pratiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup de la présentation qui a bien expliqué comment il doit se passer la mesure délocalisée par rapport au laboratoire central. Est-ce qu'il y a des questions?
Merci de votre présentation. Je voulais revenir sur la référence de la glycémie que vous faites sur tube gris avec fluorure, inhibiteur de la glycolyse. On sait très bien que l'inhibition, elle ne se produit pas immédiatement, elle se produit au bout d'un certain nombre de temps. Je crois que ça doit se situer entre 3 et 4 heures à peu près, à partir de laquelle elle est totale. Il y a quand même une perte de 20% entre le T0 et le machin. Donc en gros, si le patient dont vous allez recevoir un tube fluorure, vous le recevez une demi-heure après la prise de sang pour certains patients, et puis certaines fois 3 heures après pour d'autres patients. Est-ce que vous avez appréhendé l'utilisation des nouveaux tubes avec inhibiteurs de la glycolyse qui arrivent petit à petit sur le marché, malheureusement, avec citrate en particulier, malheureusement, qui ne donnent pas des glycémies standardisées d'une part selon les fournisseurs, puis deuxième problème, vis-à-vis desquels les seuils de diagnostic du diabète n'ont pas été faits pour ces tubes-là. Oui. Voilà. Et autre problème aussi, dans les laboratoires de ville qui sont censés vérifier les lecteurs des patients en particulier une fois par an, il est très rare qu'un patient se présente spontanément, il est très rare qu'un médecin envoie un patient aussi au laboratoire. Puis par ailleurs, les laboratoires, pour certains d'entre eux, ont une mauvaise habitude qui est de consolider la glycémie sur le tube de chimie. Donc si elle est consolidée sur un tube éparine de lithium et que le laboratoire garantit que la centrifugation soit faite avant 30 minutes, on peut considérer grosso modo qu'à 5% près, on rend quelque chose de potable. Si par contre le laboratoire consolide sa glycémie sur un tube sec et que son plateau technique lui dit « faites attention de ne pas centrifuger vos tubes trop vite, autrement vous allez me boucher mes machines » et que le laboratoire ne maîtrise pas ses temps de centrifugation, on va avoir des glycémies complètement fausses. Donc au final, ma question, c'est est-ce qu'il faut que la loi impose un contrôle des lecteurs de glycémie par les laboratoires ou au contraire un contrôle des pratiques préanalytiques des laboratoires par un lecteur de glycémie qui est la référence? C'est une caricature. Hein.
Bien. Alors, donc la question est très multiple, plein de pans. Bon, il y a des... pour la partie, est-ce que la loi doit imposer ou demander ou aller vers... ça, je ne peux pas vous répondre. Je pense que c'est peut-être l'objet d'une réflexion globale. Alors, pour le tube fluoré, le CHU de Bordeaux est passé au tube fluoré sur un écart cofrac, finalement, il y a quelques années de ça en arrière, justement parce que nous avions des durées d'arrivée trop longues des tubes au niveau des laboratoires. On n'est certainement pas les seuls à avoir été dans ce cas-là. Et le seul moyen était de fonctionner un petit peu comme les infirmières libérales qui font leur tournée et qui arrivent au laboratoire, à la plateforme, je ne sais combien d'heures après. Alors, en effet, pour le décours, la cinétique qui n'est pas identique et le patient qui va arriver en 30 minutes contre celui qui prend une navette et qui arrive 4 heures, 5 heures après, oui. Alors, de mémoire, parce que c'était aux environs de 2015 que nous avons changé, de mémoire, il y avait eu des essais de diminution de la glycémie sur le tube classique, tube sec ou tube épariné. Et je pense que comparativement, ça avait été essayé, enfin de mémoire, hein, parce que là, j'ai vraiment pas les chiffres en tête, ça avait été essayé sur le tube fluoré. Après, je suis complètement d'accord avec vous qu'en biologie, et pour le glucose, qui est quand même un paramètre fondamental, c'est là comme partout, il faut comparer ce qui est comparable. C'est vrai que c'est comme une gazométrie, ce qu'on prélève sur une seringue, est-ce que ça va être la même chose que ce qu'on fait centrifuger? Quel a été le préanalytique? Quelle a été la purge chez le malade? C'est resté à quelle température? Ça a été posé sur quelle table, dans quel frigo. Il y a tellement d'éléments qui peuvent nous échapper que pour tout standardiser, il y a une petite difficulté. On sait bien que le préanalytique, c'est 72% des erreurs identifiées de la biologie. Alors j'ai dû me perdre un peu dans vos questions. Ensuite, pour le oui, je crois qu'en effet, les médecins n'envoient certainement pas leurs malades se faire vérifier le lecteur de glycémie systématiquement. Et là, je pense qu'évidemment, s'ils sont prélevés au niveau du labo, il n'y a aucun intérêt à prélever un tube fluoré supplémentaire. Donc ça va être prélevé sur le tube du bilan standard. C'était dans quel cadre que vous me disiez ça? D'ailleurs, là, je me suis un peu perdue quand même.
Non, il y avait deux choses. C'était oui. Est-ce que vous avez testé les nouveaux tubes? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Ah non, voilà, les nouveaux tubes. Non.
Ah, c'était peut-être ça que je voulais voir, parce que oui, je pense qu'il faudrait peut-être que la profession se penche sur la question.
Non.
Et puis, deuxième question, c'est est-ce que, pareil, il faut peut-être rappeler bien les contraintes préanalytiques sur un examen extrêmement fragile. Bon, on connaît le potassium, on connaît la LDH sur les problématiques d'hémolyse, problématiques
thermiques.
Mais sur la glycémie, les problématiques de centrifugation dans les temps, standardisation des phases de centrifugation de façon régulière et non pas quand la technicienne a le temps, c'est quelque chose qui semble important, bien que ce soit une analyse très banale.
Oui, c'est très banal, mais ça peut avoir de grandes incidences. Non, je pense que la standardisation, elle est importante, mais bon,
de cette discussion qu'on pourrait continuer en dehors, puisque vraiment, on a dépassé le temps. Alors, merci encore une fois. Vraiment, vous avez montré comment...